Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. On est très heureux évidemment d'être avec vous. Bon réveil, bon petit déjeuner. Vous êtes également nombreux à nous écouter en podcast. La première heure est déjà disponible. On a parlé de l'Open d'Australie et justement ce huitième de finale entre Hugo Humbert et Sacha Zverev. Eric Salio en direct de Melbourne. Ça va mal pour notre Français breaké dans la quatrième manche.
Oui, ça se goupille mal depuis 20 minutes. Là, Hugo Humbert qui était vraiment au coude à coude avec l'Allemand. Il y avait un 7 partout, 3 partout. Et tout s'est désagrégé malheureusement assez vite. Zverev a pris le troisième 6-3. Et puis, il y a quelques minutes, il a breaké le Messin au début du quatrième set. Donc ça fait 2-7-1 Zverev. 2-1 pour l'Allemand. Il est au service et il y a 0-15. Et Djokovic lui mène 6-3, 2-1 avec un break d'avance dans le deuxième contre Jiří Lečka.
Bon, on va tenter de croiser les doigts et de pousser notre Français. Donc mené dans ce huitième de finale face à l'Allemand Zverev. Toujours avec Christophe Cessieux, Marc Madiot, Pascal Duprat, Jérôme Pinault. Alors dans trois jours, c'est le match le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain face à Manchester City. En cas de contre-performance, les Parisiens pourraient être quasiment éliminés de la Ligue des Champions. Est-ce que ce match peut mettre le feu au PSG? C'est notre question. À 10h30, un dossier passionnant aujourd'hui avec un reportage avec le professeur de toxicologie Jean-Claude Alvarez, l'homme qui peut innocenter les sportifs positifs. Et puis 10h45, on prolongera le débat avec Jonas Vingegaard qui s'invite dans la punchline des GG après avoir utilisé du monoxyde de carbone. Le double vainqueur du Tour de France veut désormais l'interdire. Se moque-t-il de nous? Ce sera notre question. On va débuter cette nouvelle heure avec ce proverbe chinois qui dit « Une étincelle peut mettre le feu à la plaine ».
RMC, le bras de fer GG.
Et c'est terminé, les coups de sifflet de Monsieur Kuipers. Victoire 2-0 de Manchester City face au Paris Saint-Germain. Paris n'ira pas en finale.
J'ai trop de mauvais souvenirs.
Et le but! Oh, quelle belle action!
Bah ouais.
Le deuxième but pour Manchester City!
Il faut absolument que vous chassiez ce mauvais souvenir de l'esprit du prince.
Le but de Manchester City avec ce ballon sur le côté droit pour Riyad Mahrez, le natif de Sarcelles qui fait un mal de chien au Paris Saint-Germain.
Vous n'avez pas assez de mauvais souvenirs.
Et c'est terminé! Victoire de Manchester City 1-0 dans ce match retour. Les Parisiens de Laurent Blanc et de Zlatan Ibrahimovic qui sort la tête basse.
Ah, pas de mauvais souvenirs ce soir. D'ailleurs, celui-là est beaucoup mieux.
Eh oui, City qui a déjà fait beaucoup de mal en Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Alors vous le savez, la vie du PSG en Ligue 1 est toujours un long fleuve tranquille. Hier soir, les Parisiens se sont imposés 2-1 à Lens, reprenant 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Paris expédie les affaires courantes. Mais cette semaine, c'est une partie de la saison qui se joue. PSG-City, donc en Ligue des Champions mercredi soir, à deux journées de la fin. Les Parisiens sont en dehors du top 24. Un mauvais résultat pourrait condamner les hommes de Luis Enrique. Alors même si depuis le début de la saison, les dirigeants parisiens le répètent à qui veut l'entendre, aucune conséquence en cas d'élimination prématurée. Paris peut-il se mettre le feu? Oui ou non? Dans le coin gauche, la team oui, représentée, et il est tout seul, par Jérôme Pinault. Dans le coin droit, vous l'aurez compris, la team non, Pascal Duprat, Marc Madiot et Christophe Cessieux. Avant de débattre, on va écouter Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. C'était sur RMC dans l'émission Rotten sans flamme le 21 novembre dernier. La question lui était posée justement de savoir s'il fallait aller loin en Ligue des Champions dès cette saison. Et puis, quid du sort de Luis Enrique? La réponse.
Mais si vous me dites, ok, vous voulez gagner la Ligue des Champions cette année, non. On veut vraiment être le niveau, on joue. Moi, je suis très content aujourd'hui, fier de mon équipe. On joue au foot. On a identity de l'équipe. On n'est pas pressé.
Et si le PSG ne se qualifie pas, il reste.
On ne change rien.
Quoi qu'il arrive,
on sort, on gagne. C'est exactement la même chose. Pour moi, comme je dis, on construit la base aujourd'hui. Avec le coach, on a beaucoup confiance de le coach.
Paris peut-il se mettre le feu? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est très serré sur les réseaux sociaux, sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est du 52-48, mais 52% non. Donc vous avez la majorité, messieurs. Jérôme Pinault est tout seul, 48%. À toi de remonter ton retard. Pourquoi oui?
Pourquoi oui? Parce que le projet du club et le projet annoncé par Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique est d'une part pour ça un renouveau. On reconstruit à Paris, on a décidé de reconstruire. Mais quid de ceux qui sont dans le stade, qui attendent beaucoup plus qu'un titre en Ligue 1, puisque ça fait déjà quelques années maintenant qu'on gagne le titre en Ligue 1 au PSG, les gens attendent plus. Et les joueurs qui, eux, ne sont pas les derniers arrivés pour un nouveau projet, mais ceux qui sont en place. Je te parle de Nuno Mendes, je te parle d'Ousmane Dembélé, je te parle d'Achraf Hakimi qui est en train de faire une saison extraordinaire. Allez expliquer à Achraf Hakimi que cette année, si on sort au premier tour et qu'il reste plus que la Ligue 1 à jouer, c'est pas grave. On peut avoir vite un clan, un groupe de joueurs dans ce vestiaire qui va chercher à partir vite parce que le projet il va pas se construire demain. Donc l'année prochaine, ça risque d'être un peu la même chose. Et de se dire que finalement, je suis venu dans un club avec des ambitions, mais ce club n'a plus les mêmes ambitions qu'avant. Quid de la discussion dans un vestiaire, ça peut vite partir à volo. Et ces garçons-là ont quand même un impact important. Il se trouve que Achraf Hakimi n'a pas joué la Coupe de France cette semaine. Il n'a pas joué le championnat ce week-end. C'est quand même un signe qu'on a besoin des grands joueurs pour aller passer ce tour-là. Que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions. Et j'ai entendu ce que dit Nasser Al-Khelaifi. Que ne gagne pas la Ligue des Champions, pas une catastrophe. De toute façon, non, parce qu'ils n'ont jamais gagné. Par contre, ne pas passer le premier tour avec des équipes au sein même de cette Champions League qui vont passer le second tour. Et je pense, et j'ai beaucoup de respect et d'amour pour le Stade Brestois, ça la fout mal. Et évidemment que une fois encore en interne, Nasser sera solide et avec Luis Enrique, pas de souci. Tout ce qui se passera autour, ils auront du mal.
Ils n'auront plus la maîtrise.
Ils auront du mal à tout maîtriser et à garder tout le monde au calme et à avoir ce discours. C'est pas grave, c'était pas le projet. On va être champion de Ligue 1 et éventuellement gagner la Coupe de France. Moi, j'y crois absolument pas.
Ok, tu n'y crois pas. Marc Madiot, votre réponse.
Moi, je suis complètement à l'opposé. Et je trouve que la situation du PSG actuellement est une excellente situation pour le devenir du club. S'il gagne contre Manchester City et qu'il se qualifie, très bien. Mais même s'ils perdent, et s'ils perdent, ce qui va être le plus important dans le moment, c'est le club, et rien que le club, et tout le club, avant les joueurs. Et Hakimi, s'il n'est pas content de ce qui se passe, eh ben il peut partir. Mais ce qui compte, c'est l'institution, le club PSG. C'est ce qui compte, c'est l'institution. Et l'entraîneur, le président et la structure du club, s'ils font bloc, ils auront de bonnes fondations, paradoxalement, pour rebondir et construire le club.
Du Stade Lavoyade, du FC
Nantes, non, c'est mais non, mais non.
Depuis que le Qatar est arrivé, c'est quand même une autre dimension.
C'est une autre dimension.
Tu peux pas être Paris Saint-Germain,
sauf que le Paris Saint-Germain a fait tout et n'importe quoi
pendant une période. Christophe Galtier a gagné la Ligue 1.
Mais non, ils ont fait tout et n'importe quoi pendant une période en allant chercher des stars.
Bah, c'était déjà la même direction.
Et ça s'est cassé la gueule. Là, ils sont dans une autre logique. Et s'ils restent dans cette logique, ils réussiront.
Oui, mais. Ok, ils réussiront, mais le projet aujourd'hui de se faire sortir au premier tour sans être avec une compétition élargie, tu ne passes pas les qualifications.
Ce n'est pas fondamental.
Alors, pour moi, quand même, si.
Pascal Duprat.
Il y a une petite parenthèse quand même, c'est qu'ils peuvent perdre contre Manchester City.
Et se qualifier quand même.
Oui, se qualifier en battant Stuttgart. Donc ça, il faut le prendre quand même en considération par rapport à la question qui est posée. Maintenant, moi, je rejoins complètement Marc.
Ah.
C'est-à-dire que jusqu'alors, le Paris Saint-Germain, c'était une équipe de vedettes, mais qui, à l'échelle européenne, avait presque réussi, mais pas réussi.
Ah, ça, ils ont fait finale.
Constater. Et souvent, une équipe, une fois que la Champions League était consommée, donc une fois qu'ils étaient éliminés, souvent une équipe qui se liquéfiait. OK? Parce qu'elle expédiait les affaires courantes avec l'avance qu'elle avait en championnat jusqu'à la saison prochaine. Ça nous paraissait bien long. Or là, j'ai l'impression, si d'aventure le PSG ne se qualifiait pas, pour le tour suivant en Champions League, ça changerait pas. Parce que Luis Enrique s'est acheté du temps. Comment il l'a fait? Parce qu'il est crédible par rapport au projet qu'ils veulent mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'au Paris Saint-Germain l'année prochaine, avec les jeunes joueurs et avec l'équipe qui est au centre des débats aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé le match hier contre Lens, mais après une première mi-temps difficile, en deuxième mi-temps, Paris s'est mis à jouer et Paris a fonctionné en équipe, est revenu au score dans un premier temps, puis ensuite a gagné logiquement contre une très très bonne équipe de Lens. Donc ça, Paris tu peux me dire ce que tu veux aujourd'hui, résonne en équipe et n'a pas besoin de l'éclat de ses stars pour y arriver. Dans c'est, à mon avis, une
avec
bonne...
Avec l'argent qui a été investi, parce qu'attention, on dit c'est un projet qui est pas pour tout de suite la Champions League cette année, c'est pas la priorité. Enfin, on a quand même mis quelques dollars sur la table pour aller chercher des bons joueurs.
Oui, mais en faisant des réajustements l'année prochaine.
Logiciel. Tu raisonnes avec l'ancien logiciel du PSG.
Bah moi, le logiciel du PSG, j'ai jamais eu, Marc. Mais
non, mais d'abord une équipe et ensuite.
Non mais très bien, ça on entend.
Il faut parler à un vestiaire, Pascal, aussi quand même. Tu es d'accord avec moi que tous les cadres, certains cadres, un mec comme Ousmane Dembélé, pas parce que tu vas pas plus loin, il va pas partir, il va rester dans ce club. Comment tu lui expliques que c'est pas l'objectif? Tranquille, reste tranquille, on attendra quelques années pour ça.
Je pense pas que ça soit ce qu'on lui dit au quotidien. Enfin,
c'est ce qu'il entend. De
la Champions League, c'est important. Non mais ils veulent peut-être enlever la pression à ces joueurs-là parce que la pression elle est naturelle à Paris avec le Qatar. Depuis que le Qatar est là, tout le monde est c'est bien normal, attend des résultats en Europe du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, attention, ils n'ont pas fait n'importe quoi, ils ont été souvent présents, mais ils n'ont jamais franchi la dernière marche, c'est-à-dire soulever la coupe. Mais je pense que c'est le bon procédé. Aujourd'hui, ils repartent avec une équipe qui est de qualité, quoi qu'on en dise, parce que même les matchs de Champions League qu'ils n'ont pas gagnés, ils les ont... somme toute, peu ou prou maîtrisé. Le résultat aurait pu être tout autre. Donc, en fait, ils construisent et l'année prochaine, ils vont peaufiner leur équipe pour la faire meilleure.
On entend Pascal, et je pense que Jérôme ne dit pas ils vont gagner la Ligue des Champions cette année. Et il l'a rappelé dans son préambule. Mais Christophe, est-ce qu'on peut, à un moment donné, croire que la communication résiste à tout? La communication, je pense que tout le monde l'a intégré, même les supporters parisiens. Mais est-ce qu'en cas de catastrophe en Ligue des Champions...
Mais tout ça, j'ai l'impression que tout ça a été préparé. Tout le monde est conscient que ce serait presque un miracle de se qualifier, d'aller taper Manchester City. Bah si. Et tu disais, Dembélé va râler, mais enfin, il a qu'à se regarder en face et regarder les pieds carrés qu'il a eu tout au long de la compétition. Je veux dire, tous les mecs sont responsables. C'est pas que les entraîneurs et les présidents qui sont responsables de cet état de fait. Aujourd'hui, si le PSG est dans la panade, c'est parce que ses joueurs et notamment les attaquants n'ont pas été fichus de marquer le moindre but. Donc je vois pas pourquoi ils s'énerveraient contre l'institution alors que la faute leur incombe. Donc je vois pas. Et en plus, c'est pas aujourd'hui, t'as plus des Messi, t'as plus des Neymar, t'as plus des Mbappé. C'est des mecs avec des égos un peu moins développés. Et je suis sûr qu'ils vont faire museau quand leur président va leur dire, écoutez, les gars, c'est pas grave, on est éliminés, l'objectif c'est l'année prochaine. Mais je vois pas une révolution au sein du PSG parce qu'ils vont pas se qualifier pour
après,
la suite.
Après, il y a quand même certains joueurs dans ce vestiaire-là qui, avec un collectif différent et peut-être un discours différent, seraient aussi bien meilleurs sur le terrain. Moi, ce que je sais, c'est que moi, je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, loin de là. En revanche, en Champions League, je regarde ce club parce que je sais que c'est le seul club de mon pays qui peut éventuellement briller. Et ben moi, le mec me dit que ça, cette année, c'est pas ça. Ben je zappe. Je vais regarder le Stade Brestois. C'est ce que je fais déjà. Mais alors, on perd l'ambition et de dire, on va pas viser là-haut, Marco. Non, mais je peux pas t'entendre parler
mais,
ça.
Mais
parce
mercredi,
que même si tu vises pas là-haut, si tu vises pas là-haut et qu'en interne, tu leur dis. Et tu fais passer le message que c'est plus l'objectif principal et c'est pas coupe-gorge, mais tu gardes cette ambition-là dans le discours parce que sinon.
Mais ils l'ont l'ambition.
Bah, je suis pas sûr.
En interne, ils l'ont l'ambition.
Mais bien sûr.
Tu crois qu'ils ont pas envie de battre City? Tu crois qu'ils ont pas envie d'aller au prochain tour en Champions League? Bien sûr qu'ils l'ont l'ambition.
Peut-être, mais le discours est bien rodé aujourd'hui.
Il
est
pas. Et il résiste des institutions. Aujourd'hui, on a un président au PSG. Aujourd'hui, il y a un président qui a enfin compris qu'il fallait construire et avoir des bases solides et mettre le club au centre de l'activité.
Sauf que t'as encore 4 ou 5 mois à faire. Hein.
Ça,
alors le club,
partage, ça c'est sûr.
Je pense malgré tout que le club il l'a construit. Ils l'ont construit le club. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, quoi qu'on en dise, c'est un club de référence en Europe. Quoi que vous en disiez, c'est un club de référence, y compris parce qu'il n'a pas gagné la Champions League. Aujourd'hui, c'est un club qui compte, qui attire les joueurs comme il veut. Alors vous me parlez, Hakimi va s'en aller parce que il y a pas. Hakimi,
on n'a pas dit ça. Je te dis que certains joueurs, ça peut être compliqué de manager sans
un objectif. Quand tu vois le centre d'entraînement, les moyens qui ont été mis, la qualité de ce qui a été réalisé, tu peux te dire que quand t'es joueur, tu sens que c'est un club qui a de l'ambition et qui va pas se contenter du championnat de France. Donc c'est une évidence. C'est une évidence.
Est-ce que c'est manquer d'ambition que de laisser son entraîneur travailler, avoir un peu plus de temps que les entraîneurs précédents, qui dès lors qu'ils échouaient en Europe ou dès lors qu'il y avait un couac, on les remplaçait. Est-ce que c'est pas mieux de pouvoir construire sur la durée?
Ah mais ça, vous prêchez un convaincu. Sauf que aujourd'hui, dans l'état de fait, de ne pas passer le deuxième tour de Champions League quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Je pense pas que dans la progression et dans le projet, c'était prévu comme ça.
Je vais ouvrir une parenthèse Open d'Australie parce que c'est tellement dommage. Hugo Humbert a raté une balle de break face à Sacha Zverev. Et là, ça s'annonce compliqué, Eric Salio, dans la quatrième manche.
Et il est même à 5 points de la défaite, de l'élimination, puisque Zverev s'est détaché 4-2 et 0-40 sur le service d'Hugo Humbert. Donc Zverev a vraiment su serrer le jeu, repousser la menace, et derrière il a creusé l'écart. C'est vraiment c'est le haut niveau, il y a rien à dire. Il est au-dessus, et c'est pas pour rien qu'il est numéro 2 mondial, c'est pas pour rien qu'il va peut-être ouvrir son palmarès dans un majeur dans peu de temps. Mais là pour Hugo, c'est compliqué. Donc 2-7-1 Zverev, 4-2 pour l'Allemand et 15-40 sur le service d'Hugo.
Marc Maillot.
Ouais, pour revenir sur le tennis, on va pas avoir besoin d'attendre demain matin.
Pour répondre à la question de savoir si c'est totalement réussi, cet Open d'Australie, c'est pas beau ce que tu fais, Eric Salio, Marc. Malcolm nous appelle au 32-16. Il veut participer à notre débat autour du Paris Saint-Germain. Paris peut-il se mettre le feu en cas d'élimination en Ligue des Champions avant ce match évidemment très important face à Manchester City cette semaine. Malcolm, bonjour.
Bonjour l'équipe, comment ça va?
Écoute, tout va bien. Tu as entendu les arguments des deux camps. Tu te positionnes où, toi, Malcolm?
Ah ben moi je vais aller derrière le trio, okay. Donc Marc, Christophe et
Pascal
Duprat, exactement. Alors dans le sens où, alors si on ne sort pas des poules, oui ça sera un échec. Est-ce qu'après ça va mettre le feu? Je ne pense pas. Déjà, alors j'ai une petite pensée pour Jérôme qui, je sais, aimerait que ce soit le feu, comme ça lui pourra, il pensera à jouer le titre, mais bon bref, voilà. Jonathan nous a fait un super avis en mode Marseille t'as 4 points, ok cool. Maintenant le truc c'est, on savait depuis le début de la saison qu'on ne jouait pas un truc monstrueux en Ligue des Champions, et il faut pas oublier que même quand on fait un bon truc en Ligue des Champions, on est toujours pondéré. Quand on parle de la demi de l'année dernière, on a Bartoli et compagnie qui disent oui mais c'est qu'un demi et qu'on a fait tant de défaites, donc voilà. Moi je ne pense pas que ça mettra le feu. Alors oui, ça sera une année, on est en transition. Vous avez parlé du staff, enfin non, Jérôme a dit que le staff le prendrait mal, mais c'est le staff même et le président qui ont dit on se calme pour cette année. L'argent investi, oui il y a de l'argent investi, mais tous les grands clubs investissent, et pourtant il n'y a qu'un seul gagnant avec des champions, donc ça veut dire que tout le monde est chez tout. Moi, franchement, je vais...
Tu admettras quand même, il y a une différence entre aller en huitième et en quart et ne pas passer la première phase. Quand même. Enfin, tu admettras, parmi les très grands clubs, seuls Paris et le Real de Madrid.
City, c'est ça le problème.
Mais City, ils ne sont pas sur la même.
Ils ont juste un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, City.
Ils sont aussi dans l'obligation de gagner.
Et on a entendu Malcolm qui s'est attaqué aux deux Marseillais de la bande, Jérôme Pinault et Mario Bartoli. Oui, c'était toi qui étais visé. Évidemment, merci d'avoir.
Non, mais par contre, je te rassure, j'ai quand même bien compris que la marge qu'avait le Paris Saint-Germain en Ligue 1 était largement suffisante pour même ne pas passer en phase finale de Champions League. Et jouer tranquille et être champion quand même, Malcolm.
Bon, merci en tout cas, Malcolm, d'avoir été avec nous. Forcément, ce sera à suivre tout au long de la semaine, ce match tant attendu entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Un petit point avec Eric Salio à l'Open d'Australie. C'est peut-être le dernier jeu qui s'annonce devant tes yeux.
Oui, Sacha Zverev qui sert pour le gain du match, pour une qualif pour les quarts de finale où il retrouverait l'Américain Tommy Paul, puisqu'il mène 5-2 dans cette quatrième manche. Il a été énorme en retour de service il y a quelques secondes et on a vu sa joie. Je pense qu'au fond, lui, il sait qu'il a fait le plus dur. C'est une question de secondes pour Hugo Humbert, malheureusement, pour rester dans le tournoi.
Et puis, il y a un autre événement qui vient de débuter. Ça se passe à Wengen. C'est la première manche du slalom avec Léna Marjac, notre envoyée spéciale sur place. Bonjour Léna, et Clément Noël qui va bientôt arrivé à la fin de cette première manche.
Il est même déjà arrivé, il a passé la ligne d'arrivée il y a quelques instants avec 1 seconde 10 de retard. Il est donc cinquième, oui, il est des cinquièmes provisoires. Attention parce qu'aujourd'hui il fait bien plus chaud que les autres jours, donc la piste va marquer beaucoup plus, surtout en deuxième manche tout à l'heure. C'est pas forcément très très bon pour Clément Noël qui, on le rappelle, a remporté quand même 3 slaloms depuis le début de la saison. Mais pour l'instant donc cinquième provisoire à 1 seconde 10 de la tête de course qui est pour l'instant menée par Atle McGrath, le Norvégien, juste devant un deuxième Norvégien, Henrik Kristoffersen. Et donc aujourd'hui on aura 5 Français au départ de ce slalom ici à Wengen. On retrouvera dans quelques instants avec le Dossard 13 notamment Steven Ami.
Ok, on va suivre tout ça évidemment avec toi en direct de Wengen. Merci beaucoup, et Sacha Zverev n'est plus qu'à 3 points du match face à Hugo Humbert. A tout de suite sur RMC pour un reportage passionnant autour du professeur Jean-Claude Alvarez qui veut prouver qu'un athlète a bien été contaminé à l'insu de son plein gré. Il a des technologies, il va nous expliquer tout ça dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marc Madiot, Pascal Duprat, Jérôme Pinault et malheureusement Eric Salut en direct de Melbourne. Eh bien, c'est terminé pour Hugo Humbert.
Oui, élimination 4 manches, 6-1, 2-6, 6-3, 6-2, on y a micro cru, on va dire, puisque jusqu'à 7 partout, 3 partout, voilà, il y avait peut-être un exploit au bout, mais Zverev a passé la surmultipliée, il n'est pas numéro 2 mondial pour rien, et donc il jouera dans 2 jours son quart de finale face à l'Américain Tommy Paul.
Bon, parfait, merci beaucoup Eric, salut, il reste un Français, hein. Gaël, oui. Monfils face à Ben Shelton,
la nuit prochaine, aux
alentours de 5h30 du matin, on sera là au rendez-vous pour soutenir notre dernier Français en lice à l'Open d'Australie. Évidemment, tu vas aller recueillir la première réaction d'Hugo Humbert, on vous passera un extrait dans cette émission un petit peu plus tard. À tout à l'heure, Eric Salio.
RMC, le dossier des GG.
Iga Swiatek, Simona Halep, Isao Ratibus, toutes ces sportives ont un point commun, elles ont été contrôlées positives à une substance interdite et ont demandé de l'aide au professeur Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Son but, prouver qu'un athlète a bien été contaminé à l'insu de son plein gré. Anthony Reich, notre journaliste RMC Sport, l'a rencontré vendredi dans son laboratoire pendant plusieurs heures.
L'immeuble en briques ne paye pas de mine à première vue. Pourtant, au sein de l'hôpital Raymond Poincaré à PHP de Garches, le service de toxicologie du professeur Jean-Claude Alvarez s'est forgé une solide réputation dans le monde de l'antidopage. Depuis l'affaire Simona Halep, les athlètes se bousculent à la porte du professeur.
Mon travail, il est simple. Tenter de prouver qu'un sportif n'est pas dopé. C'est-à-dire qu'il a été positif à une substance, mais sans l'avoir pris de lui-même. On n'est pas dans un cadre de dopage, on est dans un cadre de contamination. Aujourd'hui, on est dans un environnement où nous sommes tous contaminés ou contaminables. L'eau du robinet peut être contaminée par des médicaments, vous ne le savez pas.
La spécialité du professeur Alvarez qui a fait la différence dans tous ces dossiers, l'analyse capillaire. C'est la première étape du processus pour prouver si un athlète est dopé ou contaminé. Test réalisé à l'aide de spectromètres de masse, d'énormes caissons à la pointe de la technologie qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros et qui analysent le cheveu molécule par molécule.
Quand vous prenez une substance, que ce soit dans un cadre de dopage ou de contamination, elle va rester dans le sang à peu près 24 heures en moyenne. 2-3 jours dans vos urines. Ça va rester dans les cheveux tant que vous ne vous coupez pas les cheveux. Sachant que la vitesse de pousse du cheveu, c'est 1 cm par mois. Si vous avez des cheveux de 5-6 cm, c'est 5-6 mois d'antériorité. Je pourrais dire tout ce que vous avez pris dans les 6 mois qui précèdent.
Si la concentration est infime ou beaucoup plus faible qu'une quantité synonyme de dopage, l'athlète apporte alors tous les produits qu'il prend au quotidien. Compléments alimentaires, crème de jour, de nuit, baume à lèvres, médicaments, etc. Dans le dossier Swiatek, cette analyse a révélé une absence de trimétazidine dans les cheveux de la Polonaise alors qu'elle avait été contrôlée positive dans ses urines. Une fois le produit détecté avec la molécule concernée par le contrôle antidopage, l'athlète va acheter une boîte neuve du produit. Par exemple, la numéro 2 mondiale s'est rendue dans la pharmacie où elle avait acheté sa boîte de mélatonine. Elle a pu en prendre une autre issue du même lot. C'est très important pour le contrôle. Le toxicologue analyse alors cette nouvelle boîte et en met une de côté pour une contre-expertise.
Si je trouve également le produit, ça prouve bien que ce n'est pas un problème de sportif. C'est le produit qui est contaminé avec des très faibles doses, suffisantes pour avoir un résultat positif dans les urines, mais pas suffisant pour avoir de l'effet. Ça ne vous fait pas gagner des matchs. Les microdoses de PO, ça permet d'avoir des effets. Là, on n'est pas sur de l'EPO. On est sur des produits qui ne marchent pas avec des microdoses.
Place alors à l'ultime étape du processus, la reproduction des faits. Dans l'affaire Isao Ratibus, contrôlée positive à l'ostarine, le professeur fait rejouer une journée complète à la championne du monde d'escrime 2022 et son compagnon avec les mêmes timings et les mêmes routines de couple que lors de la journée du contrôle antidopage positif concernée de l'escrimeuse.
J'ai été chez eux, j'ai même testé la brosse des cheveux d'Isaora. Il y en avait partout. Ils étaient dans un milieu de contamination. Moi, j'ai utilisé le flacon que le compagnon a utilisé. Je l'ai pris dans les mains. Je me suis fait un dosage de mes ongles. J'étais positif.
Au test capillaire, Isaora Tibus avait 2 picogrammes d'ostarine détectée. Son compagnon, 65. Soit un niveau conforme à des doses de dopage ou en tout cas des prises régulières en l'occurrence pour le spécialiste. Le premier jugement a conclu à une relaxe pour contamination par fluide, l'Agence mondiale antidopage a fait appel de cette décision. Aujourd'hui, l'analyse capillaire utilisée par le professeur Alvarez n'est pas prise en compte dans les procédures de l'Agence mondiale antidopage qui s'appuie uniquement sur les analyses sanguines et urinaires.
Et voilà, reportage passionnant d'Anthony Reich à l'hôpital à PHP, Raymond Poincaré de Garches. Comment vous réagissez à ces propos de ce professeur? Est-ce qu'il essaye de démontrer, parce que c'est évidemment dans l'air du temps, Isa Horatibus, l'escrimeuse, on en a beaucoup parlé juste avant les Jeux Olympiques, il y a le cas en ce moment qui nous préoccupe, Yannick Sinner. Comment vous réagissez? Comment ça peut vous interpeller? C'est intéressant de vous avoir, Marc Madiot et Jérôme Pinault, sur ce dossier-là. Marc?
C'est à la fois bien et pas bien. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse utiliser à charge et à décharge les travaux de ce professeur. Les cheveux, tu as bien précisé que les cheveux n'étaient pas retenus dans la lutte antidopage. Donc déjà, là, il y a un souci. Je pense que si on pouvait intégrer l'utilisation du contrôle sur les cheveux, ce serait plutôt pas mal. Après, moi, je suis pas suffisamment spécialiste, ni médecin, ni chercheur pour savoir le vrai du faux par rapport à ce qui a été évoqué. Ça paraît assez surprenant. Néanmoins, dans la défense d'un athlète, il est logique qu'on puisse utiliser ses moyens de défense, mais il faudrait aussi qu'on puisse utiliser ses moyens pour prouver que l'athlète a été dopé. Moi, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est qu'on ait les deux côtés du sujet, c'est-à-dire qu'on soit capable de dire. Il y a eu maldonne sur le produit et c'est par inadvertance ou par méconnaissance où il y a pas de faute de la part de l'athlète, mais en même temps qu'on soit capable de dire là il y a pas d'ambiguïté, il est vraiment positif. Et je pense qu'on a besoin des deux situations et des qualités et des capacités de ce professeur pour aller dans les deux directions et pas dans une seule qui est celle de disculper l'athlète positif.
Mais la lutte antidopage, on a appris quelque chose ces dernières années. On était parti sur le cas de un athlète est pris la main dans le pot de confiture, il est dopé, il est positif, voilà, terminé. Alors que là, de plus en plus, il y a des histoires de contamination, c'est-à-dire qu'il y a le massage de Yannick Sinner, il y a le baiser entre Isa Horatibus et son compagnon, et en fait ça peut provoquer un résultat positif chez l'athlète. Et ces contaminations, on n'avait pas forcément l'habitude d'en parler. C'est-à-dire que quand un athlète était positif, on se dit ok, c'est réglé, il est dopé, terminé. Alors que là, on a des moyens de prouver qu'il y a vraiment contamination. Ça semble une avancée incroyable, en tout cas à mes yeux.
Oui, mais est-ce que justement avec cette méthode, on peut pas arriver à prouver que même les dopés sont innocents? C'est là où il faut faire attention.
Donc
quand
que
même
ce soit
au truc.
À charge et à décharge.
Il faut que Monsieur Alvarez, le professeur Alvarez, soit honnête dans son truc. Si on lui présente quelqu'un qui est dopé, qu'est-ce qu'il va faire?
Il rend le dossier. Ben non, c'est-à-dire que c'est l'avocat qui arrive. Il dit moi je m'occupe pas de votre client.
D'accord.
Parce qu'il y a trop de suspicions.
D'accord. Bon, là dans ce cas-là.
Vas-y Pascal.
Ouais, en fait, si j'ai bien compris ce que disait le professeur, en fait, il est capable de déterminer au moyen de des tests capillaires, s'il y a uniquement contamination et non dopage. Donc ça me semble important. Je comprends pas pourquoi les organismes de référence qui sont chargés de contrôler le dopage dans le sport, pourquoi ils n'utilisent pas ces prélevés capillaires. Si ce qu'il nous dit est réel, je vois pas pourquoi il dirait une bêtise, ce professeur. Il le dit clairement, c'est le fait qu'il y ait des quantités infimes dans les cheveux et le fait qu'on puisse les retrouver 6 mois après, il parle des cheveux qui poussent d'un centimètre par mois, devrait suffire à dire si c'est une contamination ou du dopage. Pourquoi donc il ne les utilise pas pour les contrôles dans le sport?
Ben oui, c'est peut-être à la main d'intégrer le professeur Alvarez.
À qui profite
dans le contrôle dans le système, parce dans que, le système de l'antidopage.
Si ce système coûte centaines de milliers d'euros, c'est ce qu'il a dit, le caisson, pour analyser et qu'on arrive à retracer les 6 mois d'activité de l'athlète.
Oui.
Donc c'est rien. Donc effectivement, cette méthode, on la découvre pas là. Si on avait voulu et s'il y avait une réelle volonté de lutter complètement.
On sait depuis toujours que les cheveux sont un vrai marqueur.
Être marqué
tout se retrouve là-dedans.
Parce qu'il y a eu une période où ça a été une méthode à l'essai. Je peux te dire que si les méthodes étaient en place, il y aura un paquet de chauves et de cheveux peroxydés en peloton, hein, ça c'est sûr. Ricardo Rico avait été pris positif après analyse capillaire. sur cette année-là, sur le Tour de France, il y avait des prélèvements qualité d'air. Je me rappelle, à l'époque, j'avais des cheveux, j'avais été prélevé. Donc, ça a été fait. Pourquoi il n'y a pas cette méthode mise en place plus en profondeur? Bah, posons-nous la question et posons-leur la question. L'AMA n'utilise pas cela. L'AMA est payée pour lutter contre le dopage l'agence dans le sport, l'agence montée. Et elle n'a pas la méthode la plus élaborée pour retracer les 6 derniers mois d'un athlète. Il y a quand même des questions à se poser.
Pour répondre à ta question, Christophe, sachez, on s'est renseigné, et c'est Anthony Reich qui m'envoie ce message, le professeur Alvarez a été sollicité par un athlète récemment qui était dopé. Il a rendu son rapport à l'avocat. Il a décidé de ne pas justement approfondir. Évidemment, on ne connaît pas le nom. Et heureusement, il y a la protection du patient.
Parce qu'il était dopé.
Mais parce que pour lui, ses conclusions, c'est qu'il était dopé. Donc, il n'a pas voulu aller plus loin.
Est-ce qu'un garçon aujourd'hui, comme Sinner, par exemple, qui va être convoqué par la main dans quelques temps, pourrait faire appel au professeur Alvarez pour l'innocenter.
Pour avoir lu les derniers papiers du docteur Alvarez, il est assez catégorique sur le cas Sinner.
Ah.
Donc je pense que Yannick Sinner.
C'est-à-dire
pour Simona Halep, il l'a blanchi. Et pour Sinner, il pense qu'il y a eu, oui.
Les copains, c'est la magie du direct sur RMC. Le professeur Alvarez veut intervenir dans cette émission. Il a écouté le reportage, il nous a entendu et il veut intervenir.
On a plein de questions à lui poser.
Donc on va marquer une courte pause et on l'invitera aussi dans le studio RMC pour évidemment approfondir cette histoire et ses recherches. On se retrouve dans quelques instants avec le professeur Alvarez et promis, on voulait parler de Jonas Vingegaard, on en parlera un peu plus tard dans cette émission. On va décaler un peu le conducteur tranquillement. Allez, à tout de suite avec le professeur.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h45, les grandes gueules du sport avec ce matin Marc Madiot, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Je vous rappelle cette information, l'information de la matinée. Hugo Humbert éliminé des huitièmes de finale de l'Open d'Australie, battu en 4-7 par Sacha Zverev. À partir de 11h, restez bien avec nous, un invité exceptionnel, Yoann Richaume, deuxième du Vendée Globe. Il sera avec nous dans le studio RMC. Les GG ont beaucoup de questions à lui poser. Il y a quelques instants, nous parlions du professeur Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie à l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garches. Nous parlions de ses recherches, de ses conclusions pour innocenter des athlètes qui ont été convaincus de dopage, en tout cas contrôlés positifs. Ça a été le cas d'Gaziantep, Simona Halep ou encore Isaora Tibus, notre française, notre escrimeuse. Le professeur nous appelle et veut réagir en direct. Bonjour monsieur Alvarez.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, de nous avoir écoutés religieusement et vous vouliez intervenir. On a des questions évidemment à vous poser, mais déjà, donnez-nous un premier sentiment là de ce que vous avez entendu.
Bah, écoutez, je voulais intervenir parce qu'il y a eu un certain nombre de questions auxquelles je vais pouvoir répondre. Donc voilà, la première de ces questions, alors je ne sais pas si on attend avant de me la poser.
Allez-y.
Est-ce que je participe uniquement à décharge des sportifs ou à charge? Non. Moi, je suis expert judiciaire, donc je fais du médico-légal. Je travaille donc pour la justice essentiellement et je travaille à charge ou à décharge.
D'accord.
C'est exactement pareil. C'est ce que j'ai expliqué, ça a été dit. Pas plus tard que cette semaine, j'ai eu une analyse de cheveux à faire pour un sportif. Si vous voulez, je débute toujours par l'analyse capillaire. Si les cheveux me montrent qu'il n'y a rien dans les cheveux ou il y a des microdoses qui correspondent possiblement à une contamination, je vais plus loin. Je vais essayer de trouver d'où vient cette contamination. On doit prouver d'où vient la contamination. Quand j'ai des concentrations dans les cheveux qui, pour moi, sont synonymes de dopage, moi, je donne mon résultat à l'avocat et je lui dis, voilà, moi, je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin parce que pour moi, c'est du dopage. Je suis contre le dopage, qu'on soit bien.
Oui, on est d'accord. Ça, on avait bien compris.
Voilà, je suis pharmacologue et le dopage, il faut lutter contre le dopage. Et il faut sanctionner sévèrement.
Alors par exemple, un cas pratique, il y a un athlète qui vient vous voir et vous dit, bon voilà, j'ai été contrôlé positif, c'est une contamination, alors un baiser, un masseur qui soigne, voilà. Et donc vous après, vous prenez ce dossier. Quoi qu'il arrive, vous prenez le dossier et ensuite vous jugez.
Absolument, je vais tester, je vais regarder ce qu'ils ont dans les cheveux et à partir de là, ou alors... On sait déjà, il me dit, ben je pense que c'est ce produit-là qui est contaminé, je vais l'analyser. Mais la plupart du temps, je commence toujours par l'analyse capillaire, qui me permet, comme vous l'avez expliqué, de remonter plusieurs mois avant. Quand on fait du dopage, on ne prend pas une dose. Ça ne sert à rien, une dose. On en prend plusieurs fois, plusieurs des doses, plusieurs jours. Et donc, on en a plein les cheveux, ça s'accumule. Le cheveu, c'est cumulatif, contrairement au sang, à l'urine. Donc, je peux dire, si c'est quelqu'un qui en prend régulièrement, ou si c'est quelqu'un qui en a pris une fois, ou quelqu'un, il risque même de ne pas en avoir. Simona Halep, par exemple, elle a une concentration 200 fois plus faible que quelqu'un qui prend ce traitement pour avoir un effet. La seule patiente traitée en France par le Roxadustat, j'étais la prélevée. J'ai eu sa mèche de cheveux. J'ai analysé, et Simona Halep, elle avait 200 fois moins. C'est très clair, ce n'est pas du dopage, c'est de la contamination.
Ok, professeur,
est-ce que votre analyse est à la portée de toutes les bourses aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on assiste justement à un truc à deux vitesses, c'est-à-dire les athlètes qui ont pas mal d'argent pourraient faire appel à vos services, et les autres, les smicards du sport, eh bien resteraient du mauvais côté de la route, quoi, quelque part. Ça coûte cher de faire appel à vos services, de vos analyses.
Écoutez, la question est tout à fait exacte. Hein. Il y a une sélection en fonction des capacités à payer sa défense, mais pas tellement au niveau de l'analyse. Moi, je suis universitaire, je suis à l'hôpital, on ne prend pas si cher que ça, mais il y a les avocats derrière. Vous êtes obligé de prendre un certain nombre d'avocats pour vous défendre, et ça coûte très très cher, bien plus cher que mes analyses, si je puis me permettre. Donc voilà, c'est clair que oui, il y a une sélection par argent.
Il y a une question qui évidemment, c'est peut-être Marc qui va la poser, parce que moi j'en ai une qui me vient tout de suite à l'idée. Vas-y Marc, j'espère que c'est celle-là. Hein.
Professeur, ce que vous nous expliquez est extrêmement intéressant. Moi j'aurais deux, trois petites questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par l'UCI, et le président l'appartient, l'AMA ou l'ITA, pour faire avancer la lutte anti-dopage à travers notamment l'analyse des cheveux? Parce que d'après ce que vous nous dites, on retrouve sur des plus longues durées et de façon catégorique la présence d'éventuels produits dans les cheveux. Pourquoi cette méthode n'est pas utilisée dans la lutte anti-dopage au quotidien?
Et aujourd'hui, on recherche dans les urines ou dans le sang, alors que les cheveux, on comprend avec
c'est
le professeur
cumulatif,
que...
Le professeur vient de le dire.
Alors, si vous voulez, non, je ne suis pas contacté, vous savez...
Si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone du président l'appartient, je vous le donne.
Non, mais c'est pas la peine. Ils savent où je suis, nos résultats les embêtent. Il y a ce dogme de l'AMA que je n'arrive toujours pas à comprendre. Vous êtes positif dans les urines, vous êtes coupable, vous êtes dopé. Non, aujourd'hui, en 2025, ce n'est plus vrai. Je veux dire, il faut attraper les vrais dopés. Alors... je pense que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de positifs. Donc, quand ils en ont un, ils veulent plus le lâcher. Mais je suis désolé. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui se dope réellement et celui-là. Il faut le sanctionner, mais lourdement. Très lourdement. Et quelqu'un qui ne sait pas qu'il s'est contaminé. Donc, celui-là, je suis désolé. Quand on apporte la preuve qu'il est contaminé, il faut s'arrêter là. L'affaire Simona Halep, 18 mois de procédure. Pour finalement ne prendre que 9 mois de sanction, mais elle est restée arrêtée 18 mois parce que la procédure a duré 18 mois. On s'est acharné contre Simona. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Vous voyez, c'est donc non, ils ne me contactent pas, mais ils savent ce que l'on fait. Et les analyses capillaires sont reconnues en justice, sont reconnues en clinique. Moi, j'en fais beaucoup pour les médecins. Et le dopage, je ne veux pas en entendre parler. Alors,
c'est
pas quelque chose qui peut remplacer le sang et l'urine. Hein. Le sang et l'urine, il faudra toujours...
Non, c'est en complément.
En complément, exactement. Et on se bat pour que ce soit reconnu comme un complément. Alors, heureusement, quand on va au TAS, quand on va au tribunal, le tribunal l'accepte. Ça, voilà.
Alors, c'était ma deuxième question. Parce que moi, je voulais vous poser la question. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, vous pouvez affirmer avec vos études que, finalement, l'Agence mondiale antidopage, le patron de l'antidopage, ne veut pas aller plus loin dans ses recherches et ne veut pas utiliser les méthodes modernes? Et ma deuxième question, c'était effectivement, si on va plus loin, et là je pense très fortement à Franck Bonamour qui manquait de moyens pour aller plus loin, est-ce que le TAS reconnaît vos travaux? Ça, c'est important, parce que ce que est en train de nous dire le professeur Alvarez, c'est un scoop, c'est quelque chose d'énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patron de l'antidopage, la police de l'antidopage n'utilise pas le meilleur moyen de découvrir qui sont les dopés. Donc, on n'a pas envie d'en avoir. Donc, le sport va bien. Évidemment, on n'aura plus de dopés puisqu'on n'utilise plus les méthodes modernes. Par contre, ce qui est très important de savoir, c'est que le tribunal arbitral du sport, qui est l'éminence suprême pour juger, reconnaît les travaux. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai dysfonctionnement entre les différents arcanes. Et le professeur nous apporte sa première réponse, c'est qu'on ne fait pas tout pour choper les dopés.
Réaction du professeur Alvarez.
Bah, écoutez, c'est exactement ça. On essaie de dénoncer ce manque de je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas utiliser les cheveux. Quand on apporte la preuve par les cheveux, ils ne veulent pas en entendre parler. Heureusement, comme vous venez de le dire, que le tribunal arbitral du sport à Lausanne, quand on y va, eux, ils prennent en compte nos résultats capillaires. Parce qu'ils veulent dire quelque chose. Quelqu'un qui en a très peu, Iga Swiatek. Elle a zéro dans ses cheveux. Il n'y a rien dans ses cheveux. Quelqu'un qui prend de l'ostarine ou de la trimétazidine pour se doper, il en a plein les cheveux. Elle n'a pas de molécules dans les cheveux. Donc vous voyez, c'est très clair, c'est de la contamination. En plus, on apporte la preuve. C'est comprimé de mélatonine vendu en pharmacie. Parce que là, c'est pareil. Quand vous achetez sur Internet, vous êtes responsable. Là, on l'achète en pharmacie. Comment vous voulez qu'elle sache qu'en achetant des comprimés en pharmacie, ils sont contaminés ? C'est juste impossible.
Et d'ailleurs, je crois que dans cette histoire, oui, elle a pris un mois de suspension. Je crois que dans cette histoire, en plus, vous lui avez dit, faut vite aller racheter ce médicament en pharmacie. Oui. Il restait qu'une seule boîte du lot. Heureusement pour elle, elle a réussi à l'acheter et à vous l'envoyer pour que vous puissiez faire des analyses. Justement, vous parlez d'Igaziantec. On a envie forcément de vous parler d'Yannick Sinner. Alors, vous ne vous occupez pas de lui, évidemment.
Il n'est pas venu vous voir.
En tout cas, il n'est pas venu vous voir. Quel est votre regard, même si vous n'avez pas les analyses, évidemment, quel est votre regard sur sa situation? Est-ce que vraisemblablement on est dans le même cas aussi que Swiatek ou Simona Halep?
Oui, tout à fait. Alors lui, c'est du clostébol. Le passage transcutané du clostébol, ça a été décrit, ça existe réellement. Vous avez du clostébol sur la main, vous serrez la main d'un sportif, il peut être positif. Oui. Pour vous dire à quel point ça peut passer. Hein. Donc oui, ce qui décrit, c'est tout à fait possible. Mais je me suis pas occupé de cette affaire. Mais moi, si je m'en étais occupé, il aurait déjà eu une analyse capillaire. Que je sache, je suis pas sûr qu'il y en ait eu. Et je vous garantis, j'aurais fait exactement comme j'ai fait avec Yves Aourin. J'aurais reproduit la scène. C'est-à-dire que j'aurais mis de la crème sur les mains de son kiné. Il aurait recommencé à le masser pendant plusieurs jours, puisque le massage, c'était plusieurs jours. Il a eu deux tests positifs. Et j'aurais fait des prélèvements urinaires chez Sinner tous les jours. Enfin, en permanence. Exactement comme j'ai fait sur Mohamed Oufal.
Donc,
j'ai repris la même boîte. Je l'ai donné à quelqu'un, un volontaire, je vais vous dire, le volontaire c'était mon fils. Maintenant je peux le dire, c'était mon fils. Il a repris exactement la même dose que Mohamed Oufal. J'avais exactement la même concentration dans les urines de mon fils que celle qui a été retrouvée chez Mohamedou. Donc voilà, on prouve qu'en prenant cette boîte que j'ai achetée neuve, hein, on a exactement la même chose que Mohamedou.
Donc vous nous dites aujourd'hui, professeur, et je suis désolé, on va devoir s'arrêter là, mais promis, on va vous inviter dans le studio RMC parce que c'est passionnant. Vous nous dites qu'aujourd'hui, avec Yannick Sinner, tant qu'on n'a pas de prélèvement capillaire, et maintenant c'est certainement trop tard, on peut pas l'affirmer. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, et malheureusement on n'a pas ces études, on peut pas dire si dopé ou pas dopé, ou si c'est une contamination ou pas une contamination, et ça c'est extrêmement intéressant. Professeur, vous êtes d'accord pour venir prochainement dans les grandes gueules du sport avec nous dans le studio?
Oui, bien sûr. Juste un petit complément, Sinner, c'est pas encore trop tard. Ah. S'il a suffisamment de centimètres pour remonter, c'était au mois d'avril, je crois. Donc, il faudrait qu'il ait 8 centimètres de cheveux. Je suis pas sûr qu'il les ait.
Ah oui, pas sûr.
On pourrait remonter jusqu'au moment.
Donc, vous conseillez en quelque sorte aux sportifs de haut niveau de se laisser pousser les cheveux comme les hippies.
Ou de se les couper court.
Voilà, les avoir très très longs pour arriver à prouver un jour qu'ils n'étaient pas.
Merci. Merci, professeur Alvarez. On vous envoie rapidement une invitation au directeur du service toxicologie à l'hôpital APHP, Raymond Poincaré de Garches. Merci d'avoir appelé les grandes gueules du sport. Léna Marjac, rapidement à Wengen, où en sont nos Français pour la première manche du slalom?
2 sur 5 sont passés pour l'instant et donc le meilleur français c'est Steven Amier, classé en 6e position. C'est très bien pour la seconde manche qui aura lieu tout à l'heure à partir de 13h15 et on retrouve en 10e position Clément Noël et donc 3 français vont encore s'élancer, Paco Rassa, Victor Muffat-Agendé, Léo Anguenot.
Allez, un invité exceptionnel dans quelques instants dans le studio RMC, ça se bouscule ce matin. Yoann Richaume, 2e du Vendée Globe, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.